Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour. Je reçois Jean-Louis Briand, secrétaire général de la Fédération départementale de chasse de la Drôme et qui en est également le chargé de com. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Émilie.
Alors vous êtes venu aujourd'hui à la suite tout simplement d'un mail que vous avez envoyé à la radio où vous faisiez part de statistiques publiées par l'Office national de la chasse, de statistiques sur les accidents de chasse mortels.
Voilà, alors tout simplement nous constatons année après année que la situation s'améliore. Il y a une trentaine d'années, nous étions à 40 accidents mortels, nous sommes cette année à 10. Je dis toujours avec regret 10 parce que c'est 10 de trop. Mais la formation continue de nos chasseurs, les mesures de sécurité qui doivent être lues avant chaque battue. Nous convoquons régulièrement nos chasseurs à des formations sur la sécurité à la fédération à Cré. Font que petit à petit, mais la situation s'améliore, mais elle s'améliore également au niveau national, puisque toutes les fédérations entreprennent la même forme de formation. Nous sommes tous axés à 100% sur la sécurité, c'est la priorité numéro un du monde de la chasse. Et il est vrai que petit à petit, et puis surtout le permis de chasser qui est de plus en plus difficile à passer, fait que nos candidats, c'est la sécurité qui prime, c'est éliminatoire dans l'examen du permis de chasser, et ça fait que la situation s'améliore.
Oui, alors ce qu'il faut préciser aux auditeurs, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent absolument pas le fonctionnement d'une fédération de chasse, c'est qu'effectivement il y a une vraie administration avec des vrais responsables. Donc vous avez des règlements, des consignes de sécurité et des choses extrêmement sérieuses.
Oui, il faut d'abord que je précise qu'en France, il y a 1 100 000 chasseurs et ils se tirent plus d'une centaine de coups de feu. Je veux bien entendre qu'une arme, c'est dangereux, c'est tout à fait exact, c'est ce qu'on explique à nos chasseurs tout au long de l'année. Mais en réalité, ce n'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est celui qui la tient. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai 34 ans de gendarmerie derrière moi et la sécurité est vraiment quelque chose de primordial dans tous les domaines, pas qu'à la chasse. Donc, effectivement, les fédérations, dans leur ensemble, ont pris la même direction, c'est-à-dire on parle d'abord de la sécurité. Pour nous, une bonne saison de chasse, ce n'est pas une saison avec pléthore de gibier, c'est simplement une saison sans accident de chasse. Malheureusement, on en est encore à 10, et j'espère qu'un jour, on arrivera encore beaucoup plus bas.
Peut-on arriver à zéro? Est-ce que, effectivement, comme l'erreur est humaine...
Mais nous parlons, je voudrais bien quand même qu'on situe bien le débat, c'est-à-dire qu'on parle d'accident de chasse et non pas de crime, parce que c'est tout un autre débat et ça c'est jugé au pénal. Ce qu'il faut que nos auditeurs sachent, c'est que chaque fois, sans hésitation, la fédération se porte partie civile dans tous les accidents de chasse et également dans toutes les infractions qui sont relevées par les gardes de l'ONCFS, c'est-à-dire l'Office national de la chasse sauvage. Parce qu'on préfère se débarrasser d'une centaine de mauvais chasseurs et garder les bons. Nos chasseurs en sont conscients et on ne leur fait aucun cadeau au niveau des fédérations. C'est un principe. Il faut arriver à assainir cette situation. Il y a eu des abus il y a une trentaine d'années, je le reconnais, tout simplement parce qu'on ne passait pas de permis, parce qu'on faisait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes devenus des gens non seulement sérieux, mais responsables.
Oui, parce que là, vous devez me voir arriver avec mes gros sabots, mais effectivement, on peut avoir des fois l'image d'un chasseur alcoolisé et n'ayant pas grande conscience de ce qu'il va faire. Comment vous faites pour parer ces problèmes-là? Parce que je pense qu'ils existent.
On rencontre le même problème sur la route. Et vous avez des gens qui font la fête, qui sont alcoolisés ou qui sont sous l'effet de produits stupéfiants, qui prennent la voiture... Moi, en tant qu'ancien gendarme, je les appelle les assassins en puissance. Nos chasseurs, si aujourd'hui ils ont pour stricte consigne de consommer de l'alcool éventuellement à l'issue des parties de chasse, mais jamais avant. Et je vous garantis que si on en trouve avec alcoolisés au cours de parties de chasse, on leur fera pas de cadeau.
Est-ce que dans chaque endroit, dans la Drôme par exemple, vous avez des gens sur qui vous pouvez vraiment compter, qui sont sérieux
Mais il faut relativiser. L'immense majorité des chasseurs est devenue sérieuse, tout simplement parce qu'ils ont pris conscience des conséquences qui se passaient. Et puis lorsqu'il y a un accident de chasse, vous savez, c'est un drame pour la famille de la victime. Mais n'oubliez pas que c'est également un drame pour la famille de l'auteur, qui vit très mal. Je ne parle pas de l'auteur par lui-même, parce que quelquefois, j'ai connaissance d'auteurs qui se sont suicidés à l'issue. Mais tout simplement parce que la famille de l'auteur ne supporte pas le fait que l'un des leurs ait provoqué la mort de quelqu'un d'autre, involontairement bien entendu.
Ces statistiques montrent que les cas d'accidents mortels sont du coup rares et que 10 cas, il s'agit de la Drôme ou de la France ?
Ah, je parle au niveau national, hein. Je parle de 10 morts au niveau national. Donc j'en reviens à 1 100 000 pratiquants, une centaine de coups de feu de tirés tous les ans et effectivement 10 morts par an, enfin 10 morts l'année dernière, puisque tous les ans, régulièrement, nous baissons un accident mortel.
Mais alors les statistiques sont de votre côté. 10 morts pour plus d'un million de chasseurs, c'est très relatif en fait. Vous avez des détracteurs, des gens qui pensent que c'est encore beaucoup trop ou que ça pourrait être évité ou...
Mais chaque fois qu'il y a un accident mortel, vous le savez très bien, nos détracteurs foncent dans la brèche et polémiquent là-dessus, exagèrent les faits, ne veulent pas regarder les statistiques officielles qui sont incontestables parce qu'elles sont au niveau gouvernemental. Et c'est regrettable. Mais en fait, leur but final, c'est simplement d'interdire la chasse, et je veux dire, alors que la chasse est d'utilité publique.
Alors je vais vous demander simplement de m'expliquer en quoi la chasse est d'utilité publique.
Alors je commencerai d'abord par vous présenter la Fédération des chasseurs de la Drôme. C'est 17 salariés, un directeur et 16 salariés. C'est un conseil d'administration qui est composé de 16 administrateurs bénévoles dont je fais partie avec le président Alain Hurtevent. Pour la petite histoire, Alain Hurtevent est mon ancien colonel de gendarmerie, donc quelqu'un, une grosse pointure, quelqu'un de très sérieux. Et derrière, donc, c'est des créations d'emplois. Et puis, nous sommes les gestionnaires de la biodiversité, c'est-à-dire que tout au long de l'année, ça passe parfois inaperçu, les chasseurs, pour avoir simplement des animaux à chasser l'année d'après, ouvrent des chemins, nourrissent, agrènent les sangliers dans les bois hors période de chasse pour tout simplement qu'ils n'aillent pas dans les cultures, parce qu'il faut savoir que tous les dégâts grand gibier sont payés exclusivement par les chasseurs. Tous les ans, nous payons entre 250 et 300 000 euros de dégâts. Et vous savez, quelquefois, ça fait un peu râler nos chasseurs parce que nous sommes autonomes, c'est-à-dire que nous augmentons les cotisations lorsqu'il y a trop de dégâts. Et dans certains départements, c'est effarant, quoi. Alors, dans la Drôme, ça ne se passe pas trop mal parce que nous avons des chasseurs dévoués où on travaille avec le monde agricole toute l'année. On est là pour les aider. Déjà, il faut savoir que, très souvent, notre gibier, on en donne une partie aux personnes nécessiteuses du village, aux agriculteurs, nos chasseurs, pour leur faire plaisir. On est là pour clôturer leur terrain avec eux, bien souvent, parce qu'il faut quand même savoir les endroits où il y a des problèmes. Il y a un travail de longue haleine et toute l'année avec eux. Nous avons des relations qui sont extrêmement cordiales avec le monde agricole, qui comprennent, ils nous prêtent le territoire, ils nourrissent les animaux, ils nourrissent les hommes également, mais ils nourrissent les animaux. Et en retour, nous, on fait tout ce qu'on peut pour éviter les dégâts, pour éviter les problèmes avec eux. Et je vais citer une problématique qu'on a dans la vallée du Rhône, qui ne concerne pas vraiment le Diois, mais dans la vallée du Rhône, où on s'est rendu compte que les corbeaux causaient 300 000 euros de dégâts sur les maïs de semences par an. Et on a mobilisé 1000 chasseurs régulateurs qui, hors période de chasse, tirent ces corbeaux et chaque année, ils prélèvent environ 10 000 corbeaux. Bon, ça, c'est au grand plaisir des agriculteurs parce qu'ils avaient, à certains endroits, soit les maïs, soit les tournesols étaient ressemés tout simplement à cause des dégâts que faisaient les corbeaux au moment où les graines germaient et commençaient à sortir de terre. Et ça a été aussi, alors qu'on n'est pas obligé, le corbeau est un animal qui ne se consomme pas, Donc, on était simplement par solidarité.
Oui, parce qu'il y a une rupture. Alors, on pourrait remonter très loin dans l'histoire pour savoir à quand a lieu la rupture. Mais en tout cas, l'écosystème et les choses ne se gèrent plus simplement. Et on se retrouve avec des surpopulations de certains animaux.
Mais ça, c'est la grosse erreur de la protection intégrale de certaines espèces. Bon, je ne vais pas parler du cormoran, qui est un gros problème pour les pêcheurs. Hein. Mais voilà une espèce qui est protégée depuis de longues années. Et à un moment donné, elle est surabondante et personne ne s'en occupe. Ça a été le cas du corbeau. Le corbeau, aujourd'hui, il est chassé. Attention, c'est très sérieux parce que c'est le préfet qui prend un arrêté sur des parcelles bien désignées. Ça ne se fait pas n'importe comment, n'importe où. À la demande de l'agriculteur qui a des dégâts. Hein. Mais il faut, et c'est le rôle du chasseur, de gérer toutes les espèces. Et lorsqu'il y a surabondance, soit il y a épidémie, et ça on l'a constaté, hein, soit il y a une espèce qui prend le pas sur l'autre et qui fait disparaître une autre espèce.
Ça signifie qu'il y a une vraie nécessité de la chasse aujourd'hui ?
Mais la chasse est une forme de gestion. Alors bien sûr, c'est la chasse-plaisir. Hein. Mais quand vous prenez l'exemple de l'abondance des sangliers cette année, où nous avons prélevé 16 340 sangliers, alors que depuis une dizaine d'années, on tournait autour de 10 000. La chasse n'est plus devenue une chasse-plaisir, elle est devenue un travail. Hein, parce qu'on a poussé nos chasseurs à aller sur le terrain de plus en plus souvent, et à tel point que cette année, nous l'avons ouverte, la chasse aux sangliers, au 15 août, justement pour limiter les surpopulations. Nous sommes là pour un équilibre, pour maintenir un équilibre. Nous faisons tout ce que nous pouvons dans ce sens. Et lorsqu'il y a surabondance d'une espèce qu'on peut chasser, eh bien, on pousse nos chasseurs à en prélever un maximum pour limiter justement la surabondance. Parce que toutes les espèces peuvent cohabiter dans la mesure où il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Lorsqu'on laisse faire les choses un peu trop longtemps, mais si l'espèce n'a pas de prédateur, le principal prédateur étant l'homme, bien entendu, si elle n'a pas de prédateur, elle se développe vitesse grand V. Et c'est ce qui s'est passé pour les sangliers cette année, qui n'a aucun prédateur, puisque même le loup ne s'attaque pas aux sangliers. Et on a eu plusieurs facteurs qui ont fait cette surabondance. Tout simplement, un hiver très doux où il n'a pas gelé. Donc les jeunes marcassins, en principe, lorsqu'ils gèlent fort, il y a des marcassins qui meurent tout simplement. Hein. Une glandée, ça ce sont les chênes, une surabondante. Une fainée grâce aux hêtres, hein, surabondante. Des champs de maïs un peu de partout parce qu'il y a de plus en plus de champs de maïs dans la Drôme. Et quand les laits ont à manger suffisamment, à partir de 35 kilos, elles font une voire deux portées. Et à partir de là, écoutez, les populations explosent et seuls les chasseurs peuvent réguler tout ce genre de choses.
Alors là, la vie des sangliers est effectivement très confortable. Vous venez de la décrire, en fait, là, vu qu'ils ont plein de choses à manger partout et qu'il a fait doux cet hiver. Mais du coup, vous retrouvez-vous, surtout les paysans, avec des champs complètement détruits. Et votre mission à vous, c'est d'aller les chasser. Mais alors, je suppose que parmi les chasseurs, il y a un maximum de passionnés et que peut-être que cette chasse à grande échelle plaît pas à tout le monde.
Forcément, lorsqu'on chasse trop souvent et une partie de l'année, comme c'était le cas cette année parce qu'on a eu droit aux battues administratives, on a eu l'ouverture anticipée au 15 août, effectivement. Mais ça ne nous fait pas plaisir à nous non plus et il ne faut pas croire. Hein. Aller à la chasse, on veut aller à la chasse par plaisir. Pour prélever quelques animaux, pour être en contact avec la nature, pour courir avec son chien ou écouter les chiens, bon, peu importe. Mais lorsqu'on est obligé d'aller à la chasse, lorsque ça devient un métier, hein, mais là, par contre, c'est une contrainte, et une contrainte qui n'est pas toujours bien acceptée par le monde de la chasse, qui en a, il faut dire les choses comme elles sont, on ras-le-bol d'être obligé d'être sur le terrain et de tirer des animaux. Voilà. Et on en est là aujourd'hui. Si on devait arrêter la chasse, en particulier celle du sanglier, il faudrait mobiliser je ne sais combien de militaires ou de je ne sais pas qui, hein, pour pouvoir maintenir une population à un effectif normal. Et 16 000 sangliers, ça veut dire qu'il y en a le double dans la nature, voire plus. C'est trop. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on agisse.
Alors, comment fait-on ? Parce que là, vous êtes en train de me parler de quelque chose qui devrait être un loisir Et par divers facteurs, vous vous retrouvez à devoir aller tuer des milliers de sangliers sur le terrain, même quand finalement vous auriez personne qui serait motivé. Alors c'est quoi? C'est le revers de la médaille?
C'est simplement que les animaux s'adaptent et que lorsqu'ils ont à manger, ils se repeuplent facilement. Et bon, lorsqu'ils n'ont pas de prédateurs, eh bien, ils se développent à vitesse grand V. Vous savez, on a instauré les plans de chasse pour les ongulés sauvages, c'est-à-dire cerfs, chamois, chevreuils. En 30 ans, les populations ont explosé. Tout simplement parce qu'on les a très bien gérés. D'abord, on a lâché des animaux dans la nature. Puis on ne les a pas chassés pendant quelques années et on est arrivé maintenant à des seuils tout à fait supportables, c'est-à-dire qu'en fonction de la population qui existe sur le terrain, c'est-à-dire les populations existent sur le terrain, pourquoi? Parce qu'il y a des chasseurs dans chaque commune de la Drôme, donc dans chaque commune française, hein, et qui est mieux à même de voir les populations qui sont présentes? D'autre part, on fait des comptages, on pratique les indices, les ICE, hein. Donc tout ça, c'est-à-dire mesure de la patte, on a des zones d'abrutissement, c'est-à-dire là où les animaux viennent brouter, qu'on étudie. Donc tous ces critères font que on sait à peu près, je ne peux pas dire exactement, mais à peu près les populations qu'on a sur le territoire. Et la Drôme est particulièrement riche en animaux sauvages de toutes sortes. Je crois qu'à ce niveau-là, on est devenu vraiment crédible d'être de bons gestionnaires.
Vous êtes un vrai outil d'analyse et d'observation de l'écosystème.
Mais déjà, toute l'année, on est sur le terrain, donc déjà par nos constatations personnelles qui remontent systématiquement à la Fédé, puis par tous les comptages qu'on fait. On fait quand même énormément de comptages au printemps, des comptages d'été, et puis après les animaux qu'on chasse, qui sont immédiatement enregistrés et déclarés à la préfecture. Bon, tous ces critères font que on devient de plus en plus crédible par rapport à l'administration et on fait augmenter les populations également.
Parce que si vous n'étiez pas sur le terrain, il y aurait des grands déséquilibres. Parce que là, vous le dites, il y a encore beaucoup de sangliers à chasser parce qu'ils ont des conditions favorables à leur surdéveloppement. Mais pour les autres espèces, c'est correct?
Écoutez, on arrive petit à petit, parce que le plus gros problème, c'est la petite faune sauvage. Mais je vais quand même vous donner des chiffres. Pour les comptages de cerfs, chevreuils, lièvres et renards, on a 167 circuits qui sont effectués en véhicule 4x4 de nuit de 20h à 24 heures. Hein. Ça représente 17 364 km qui sont faits aux frais des chasseurs et 668 véhicules qui sont mobilisés pour cette opération. Donc, on mobilise 2 672 personnes. Vous voyez, et tout ça, c'est du bénévolat. Qui est mieux à même de faire des comptages de cette façon? Hein, y a que les chasseurs. Et on peut continuer sur les comptages de chamois, de mouflons, hein, où il y a 1 200, on partit que 1 268 circuits. Hein, voilà, et on mobilise 2 536 personnes. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui n'apparaissent pas forcément, mais tout ça, l'administration est au courant, puisqu'on leur rend compte, dès qu'on a fait les comptages, on leur rend compte des animaux vus, hein, puisqu'on note tous les animaux vus, et à partir de là, les plans de chasse peuvent être établis. Et lorsqu'on établit les plans de chasse, ça se fait en commission de la faune sauvage, hein, à la DDT, à la direction départementale des territoires. Et je vous rassure, il y a une trentaine de personnes autour de la table, les agriculteurs, les écolos, et encore que je devrais dire les APN plus exactement, parce que les écolos, les chasseurs en font partie également. Hein, ce n'est pas un hasard si nous avons été agréés, protection de l'environnement, APE, par le préfet. Donc, tout simplement, au vu de tous les critères que nous présentons, on établit les plans de chasse. Bon, il y a des petites discussions, mais qui sont très, très, très faibles. Et tout se passe très bien, et on avance, et les plans de chasse augmentent d'année sur année, ce qui veut dire que la gestion est excellente.
Alors, dans vos mains, il y a quelques instants, vous teniez un gros rapport bleu qui a l'air fourni. Si on est curieux et qu'on veut se renseigner sur les statistiques, les chiffres, les choses très précises au niveau de la fédération départementale, est-ce qu'on peut avoir accès à ces rapports?
Alors là, il n'y a aucun problème, nous sommes transparents à 200%. De téléphoner à la fédération, présentez-vous, ce sera encore mieux, et on vous donnera tous les chiffres que vous souhaitez.
Parce que, oui, vous avez une volonté d'être transparent sur vos actes et puis votre volonté. Tout à l'heure, on parlait du plaisir de la chasse. Effectivement, il y a un moment donné où il faut mettre les pieds dans le plat. Vous chassez parce que vous aimez tuer des animaux pour les manger.
C'est pas tout à fait ça.
Ah, voilà.
Je suis chasseur. Ça, j'ai pris mon 50e permis cette année. Donc, je chasse depuis 1966, pour être très précis. La chasse est une passion. Elle a du mal à s'expliquer. C'est quelque chose qui fait vibrer l'homme. C'est la communion avec son chien ou avec le chien des copains. C'est une communion avec la nature parce que moi, lorsque je suis dans les bois pendant la chasse ou après chasse, je m'ennuie jamais parce qu'on voit toujours quelque chose. On regarde la faune et la flore parce que les deux sont très liés. Donc, tous ces critères font que... Hein, et lorsqu'on va à la chasse, personne ne vous oblige de tirer. Moi, il m'est arrivé de faire voler des animaux, des oiseaux plus exactement, bécasse faisant perdreau, ou de regarder courir un animal sans forcément tirer. Et de temps en temps, oui, effectivement, pour se faire plaisir, on tire, on prélève. Et après, quel bonheur de pouvoir manger tout ça avec des amis qui ne sont pas chasseurs.
Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde comme passion.
Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Encore une fois, c'est la communion avec la nature, c'est le partage avec les amis, la convivialité, parce que ça, c'est le maître mot des chasses, de la chasse, la convivialité. Il faut venir à un cabanon de chasse, écouter les anciens comme les plus jeunes raconter leurs anecdotes, voir comment ils sont heureux d'avoir passé une journée quelquefois à bredouille, parce que peu importe le résultat, et c'est pas le résultat qui compte, c'est d'être immergé dans la nature, d'avoir vu quelque chose, d'avoir entendu quelque chose. Et puis, c'est le fait de se dire, ah ben, écoute, après tout le travail que j'ai fourni au printemps, ben, y a de la reproduction, il y a des animaux présents grâce à moi. Hein, et puis, bon, ben, de temps en temps, bien entendu, de prélever. C'est normal, ça, je veux dire ça.
J'aurais bien aimé avoir sur place avec nous aujourd'hui effectivement un agriculteur qui puisse témoigner de votre collaboration régulière, enfin de vos collaborations régulières. Je parlais tout à l'heure d'exemples de clôtures électriques installées autour des vignes, etc. Ce ne sont pas des choses rares, c'est des choses qui se voient dans plein d'endroits.
Ce sont des milliers de kilomètres de clôtures électriques que l'on tire. À des endroits autour des vignes, autour des champs de maïs, enfin à plein d'endroits où il y a problématique. Et tout ça en collaboration étroite avec l'agriculteur, enfin le propriétaire du terrain, puisque c'est lui et lui-même qui sait très bien quel est le champ qui est à problème et quel est le champ qui ne l'est et qui l'est beaucoup moins. Donc, à sa demande, parce que c'est toujours à la demande du monde agricole qu'on fait ça, il nous sollicite, on répond présent. Mais je voudrais quand même faire une parenthèse sur une chose où j'invite mais alors tous vos auditeurs à venir. Vous savez, tous les ans, le deuxième dimanche d'octobre, il y a un dimanche à la chasse. C'est-à-dire que c'est une journée qui est réservée aux gens qui ne connaissent pas la chasse, qui veulent s'informer sur la chasse et qui seront les bienvenus dans les ACCA. Alors pour cela, on fait une grosse publicité dans les journaux. Il suffit de passer un coup de téléphone à la fédération, de dire à quel endroit on veut aller, sur quel site on veut aller voir comment les gens se comportent à la chasse. Vous serez invité, vous passerez une matinée sur le terrain avec soit des chasseurs de sangliers, soit des chasseurs de lièvres ou de petits gibiers, donc des modes de chasse différents, voire des chasseurs à l'arc, hein, puisque c'est un mode de chasse également.
Ça, c'est du sport. Ça doit être passionnant.
Ça, c'est un vrai sport. Oui. Ouais. Quoique, bon, le reste aussi, vous savez, approcher un chamois pendant des heures sans pouvoir des fois le tirer, c'est aussi également un sacré sport. Hein. Surtout dans nos montagnes, ici, dans le Diois, croyez-moi, c'est pas toujours chose facile. Après, on vous invitera à déjeuner et on vous fera un repas chasse. Et là, vous aurez l'opportunité de goûter du gibier. Et après, bah écoutez, vous rentrerez tranquillement chez vous et peut-être que vous aurez notre image des chasseurs.
Les gens qui ont eu la chance de participer à un repas de chasse savent que ce sont de fins gourmets. Effectivement, vous avez tout un pan de personnes qui vont être vos opposants toute la vie, qui comprendront jamais ce loisir. Il y a un fossé entre vous qui est pas comblé. Bon, c'est la vie, ça arrive, on peut pas toujours se comprendre.
Vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Alors, moi, je les laisse à leur blocage sur la nature, parce que souvent c'est ça. Et puis, effectivement, moi je crois que le maître mot de la chasse, c'est convivialité, parce que quand je rencontre un chasseur dans n'importe quel département de France, eh bien, le tutoiement se met en place immédiatement et on parle d'une passion commune. Et je veux dire, ça rapproche les gens de toutes catégories sociales. Il n'y a plus de personnes avec les riches avec les pauvres. La chasse est démocratique et ça, c'est quelque chose d'important.
Alors, les différences sociales sont gommées sur le terrain, vous dites?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je peux vous dire, pour avoir chassé dans pas mal, puisque bon, j'ai fait une carrière dans la gendarmerie, j'ai été muté à droite à gauche, pour avoir été dans plein d'endroits, on ne sait même pas la profession de celui qui est en face de nous, mais bon, on est chasseur, on se tutoie, et je pense que ce n'est pas le propre à la chasse, c'est le propre à certaines associations. Tout ça parce qu'on partage ensemble la même passion.
Alors tout à l'heure, vous parliez effectivement de ce qui fait vibrer l'homme. Je me suis immédiatement interrogée, ça fait vibrer l'homme avec un petit H ou avec un grand H? Parce qu'il y a des femmes qui chassent.
Effectivement, dans la Drôme, nous sommes 14 500 chasseurs, et il y a 400 dames qui chassent. Et d'ailleurs, tous les ans, premier week-end d'octobre, il y a une battue réservée exclusivement aux Dianes chasseresses à Salles-sous-Bois. Et l'année dernière encore, il y avait 53 dames qui étaient réunies et je peux vous garantir qu'elles chassent aussi bien que les hommes et qu'elles ont une passion peut-être encore plus démesurée que celle des hommes.
C'est quelque chose qui s'ouvre quand même gentiment. C'est pas un milieu à la base qui est réputé pour son antisexisme. Est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat?
Nous vous invitons très chaleureusement, mesdames, à venir nous rejoindre. Ce matin, j'étais à un examen du permis de chasser à la Fédération, où je constatais avec plaisir qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. Et ça, vous pouvez vous imaginer pas. C'est important, je veux dire, non sexiste. La société, les plus ou moins, effectivement, les individus qui chassent ont fait partie intégrante de la société, donc ça, on ne peut pas le cacher. Mais aujourd'hui, les femmes veulent être égales des hommes, et c'est une bonne chose. Il faut que ça dure, et qu'elles viennent nous rejoindre, elles seront accueillies avec bonheur.
Alors oui, vous le disiez tout à l'heure, alors hors micro, mais effectivement, dans une fédération de chasse, dans un groupe de chasseurs, vous avez... Toutes les sortes de gens qui sont représentés. Et donc, effectivement, dans le tas, vous allez avoir, et pardonnez-moi l'expression, mais enfin des crétins. Votre travail à vous, c'est effectivement de faire en sorte que tout le monde respecte les règles, peu importe finalement, peu importe d'où les gens viennent, quoi.
On reçoit tout le monde et on élimine les mauvais chasseurs. On élimine de la façon suivante, c'est tout simple. Chaque fois qu'il y a une infraction constatée à la chasse, chaque fois que quelqu'un pose un vrai problème, on en informe le préfet qui retire le permis à la demande de la fédération. C'est nous, fédération, qui gérons et on préfère se débarrasser d'une centaine de mauvais chasseurs pour conserver les bons. Et les bons sont très, très majoritairement présents.
Alors, pour quand même répéter, vous avez parlé tout à l'heure d'un dimanche à la chasse. Alors ça se voit dans plein de choses. C'est une sorte de journée porte ouverte, en fait. Et j'en ai jamais entendu parler. Vous dites qu'il y a une communication, effectivement, dans les journaux. Mais alors, je suis restée sourde à cette information. C'est une initiative de qui?
Alors, c'est parti de la Fédération nationale de la chasse, donc à Paris, hein, qui ont demandé aux fédérations de France, puisque dans chaque département il y a une fédération, d'ouvrir les portes en pratiquant le dimanche à la chasse comme les agriculteurs font le dimanche à la campagne. C'est sur le même principe. Et dans la Drôme, l'année dernière, il y avait 16 sociétés de chasse, ACCA, hein, Association de chasse communale agréée, qui ont ouvert leurs portes. Et nous avons reçu plus d'une centaine de personnes non chasseurs dans ces différentes ACCA. Et je peux vous dire que globalement, à 99%, les gens étaient tellement satisfaits qu'ils souhaitent revenir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ceux qui ne sont jamais venus. Donc la communication, bah, écoutez, je l'entends, j'en suis chargé, je ne suis peut-être pas assez bon dans ce domaine. Alors je vous le dis, deuxième dimanche d'octobre, le dimanche à la chasse, et on vous dira les sociétés de chasse qui veulent bien participer.
Il suffit d'appeler la fédération de chasse départementale, voilà, de l'endroit où vous habitez.
Voilà, exactement. Donc on vous donnera un listing de sociétés de chasse qui jouent le jeu, hein, qui pratiquent le dimanche à la chasse. Et à partir de là, ben, ce sera à vous de choisir la société où vous voulez aller, enfin l'endroit où vous voulez aller. Le rendez-vous se fait systématiquement le matin à 7h30 sur la place de la mairie du village. Donc dans tous les villages, il y a une mairie. Mais alors, je vous ferai passer des infos supplémentaires puisque c'est comme ça.
Peut-être que je me risquerai un reportage à la journée de la chasse.
Avec grand plaisir.
Il va falloir que je m'achète du treillis parce que j'en ai pas, mais...
Il suffit simplement d'avoir de bonnes chaussures de marche parce qu'effectivement, vous allez marcher un peu dans la nature. Mais vous inquiétez pas, et ce ne sera pas un raid. Hein.
Et est-ce que vous avez constaté, si vous avez vous-même participé à ce genre de journée, des gens qui retournent leur veste complètement et qui viennent en opposant et puis qui sont finalement pas forcément conquis et qui ne vont pas forcément devenir chasseurs, mais qui en tout cas changent d'avis globalement sur la chasse?
Tout à fait, parce que bon, mon rôle justement, c'est d'être présent dans certaines associations. Je ne peux pas être partout, donc ça fait 3 ans qu'on pratique ce genre d'événement. Donc chaque fois, je suis dans une association différente. Et évidemment, j'échange avec les personnes présentes. Et j'ai entendu des gens en arrivant dire « je suis venu, mais finalement, je me demande si je n'ai pas fait une bêtise de venir et tout ça ». Et j'irai plus loin. J'ai une journaliste que je connaissais depuis longue date qui était foncièrement anti-chasse et qui vient maintenant systématiquement faire un reportage. Elle travaille à Dromemdo, je peux même le préciser. Tous les ans, elle vient faire un reportage dans une ACCA différente parce qu'elle s'est prise au jeu. Elle ne chassera jamais, mais ce n'est pas le but. C'est simplement qu'elle comprenne la mentalité, le rôle d'un chasseur. Et je crois que là, elle a très bien assimilé et elle est ravie de participer tous les ans au dimanche à la chasse.
Alors voilà, dimanche à la chasse, on trouvera des renseignements peut-être sur Internet le moment venu.
Alors nous avons un site Internet, hein, il ne faut pas hésiter à aller le consulter parce qu'il est. Vous saurez d'abord énormément de choses hein, sur le site. Alors je vous donne le site, c'est chasseur au pluriel -drome.fr. Ou alors vous faites contact, mais là vous avez directement les salariés, contact@chasseur-au-pluriel-drome.fr.
Là, c'est si on a une question plus précise et qu'on veut s'adresser directement à la fédération.
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez un souci quelconque, de vous adresser à la fédération. Vous aurez le salarié qui est compétent, parce que chaque salarié a des spécialités. Et dans tous les cas, on vous répondra à vos questions, parce qu'on n'a rien à cacher. Au contraire, bien au contraire, on a justement à faire savoir ce qu'on fait.
Alors Jean-Louis, merci beaucoup. Vous pourriez encore parler des heures de chasse, dites-vous. Non, mais je vous remercie sincèrement d'être venu dans le studio de Radio Diwa.
Eh bien Émilie, c'est bien moi qui vous remercie parce que ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Restez bien à l'écoute des ondes de RDIWA. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur le www.rdwa.fr. Salut à tous.
Interview. Ok. Bird.
L'interview du jour.